Agréable quand on a les enfants dans une intro. Ça fait toujours du bien de les voir et de les entendre. Il y a 15 jours, Pierre a commenté pour nous un passage dans Luc 9 à 14 sur la prière au temple du pharisien et du publicain. Vous vous en souvenez? Et nous y avons vu la sincérité dans la foi de ce pharisien, mais une foi qui était malgré tout empreinte de légalisme, on s'en souvient. Mais aussi, nous avons vu la réelle détresse d'un publicain, un collecteur d'impôts, qui n'ose même pas lever les yeux au ciel pour s'adresser à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite à lire un passage qui n'est pas sans parenté avec Luc 18, 9 à 14, dans ses intentions pédagogiques, et ce passage se trouve dans Matthieu 9, verset 9 à 13. Je crois qu'on va pouvoir vous le projeter. Et je le lis avec vous. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors vous connaissez bien ce passage, pour beaucoup d'entre vous. Quelques rappels. Cet épisode, il est relaté dans deux autres évangiles, ceux de Marc et de Luc. Et Matthieu n'y est pas forcément appelé Matthieu, mais il peut être appelé Lévi. Et Matthieu semble donc avoir été un surnom qui a été donné à Lévi, Matthieu signifiant « don de Dieu ». Le Matthieu dont il s'agit ici est vraisemblablement l'auteur de l'évangile, encore que les théologiens en débattent toujours. De là l'expression de débat théologique. Ce Matthieu est un receveur des douanes, c'est un péager. Enfin, Matthieu est certainement parmi les 12 apôtres le seul qui était fonctionnaire du gouvernement. Et ainsi, ça nous rassure parce qu'on se dit que même les fonctionnaires peuvent être appelés. Alors, le contexte. Le service des impôts douaniers, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, à Capernaum, ce service est important et vous voyez peut-être qu'avec la petite flèche rouge, voilà, Capernaum est ici, voilà, au bord du lac. Et c'est un service important, ce service des impôts, parce qu'il est sur une route qui est vraiment très importante, c'est la route qui va de Damas à l'Égypte. C'est pas rien. Et puis c'est à partir de là aussi qu'on prend le chemin vers Tyr ou vers Sidon, sur la côte, les villes de la côte. Et le contrôle des marchandises se fait à cet endroit-là, à la circulation des marchandises, résultat de la pêche aussi, enfin on taxe un peu tout à cette époque, hein. C'est pas nouveau ça. Donc les collecteurs d'impôts dans ce contexte, ils ne sont pas bien vus. Ils ne sont pas bien vus parce qu'ils sont, pour des raisons de service, souvent obligés de travailler le jour du sabbat, donc ils enfreignent le sabbat. Ils sont en contact, pour les pharisiens, de façon impure avec tout un tas d'acteurs, par métier quelque part. Et puis, on considère qu'ils ne sont pas vraiment très patriotes, c'est-à-dire l'argent les intéresse d'abord avant toute chose, et on leur fait beaucoup de reproches d'en détourner à l'époque. Donc ils sont à la merci de grandes tentations de fraude. Et voyez, on en parle souvent dans les évangiles, hein, la réputation des collecteurs d'impôts est vraiment pas très très bonne. Là, en l'occurrence, c'est un receveur des douanes. En résumé, le péager fonctionnaire ne respecte pas le sabbat, et en plus, à tous les coups, même si c'est pas vrai, on le pense, il trafique. Alors, il va y avoir un événement dans la vie de ce péager, c'est lorsque Jésus appelle à son service Matthieu. Et Jésus est finalement chez lui. Capernaum, c'est une ville, alors suivant les historiens, c'est un village plutôt, c'est entre 1000 et 1700 habitants. C'est pas très grand. Mais Jésus est venu se réinstaller là. Il en est parti, il est revenu s'y établir. Et d'ailleurs, c'est tellement sa ville que Matthieu le dit. Dans Matthieu 9, 1, Matthieu dit clairement, l'auteur dit en tout cas clairement que Jésus est revenu dans sa ville. Alors tout porte à croire, 1000-1700 habitants, que le collecteur d'impôts n'est pas tout à fait un inconnu pour Jésus et Jésus n'est pas tout à fait un inconnu pour le collecteur d'impôts. Ils se sont croisés au moins quelques fois. Et l'appel de Jésus est d'une brièveté saisissante, ainsi que la réponse d'ailleurs. Regardez comment c'est écrit. Il dit « Suis-moi » et lui, quittant tout, se leva et le suivit. Ça a l'air extrêmement rapide et décidé. Alors, il y a un épisode qui suit tout de suite, c'est le repas. Le repas, les commentateurs pensent qu'il a lieu quand même plutôt chez Matthieu, en l'occurrence, qui invite. Et comme il a des moyens, ce repas, il y a des tas de gens qui peuvent rentrer dans la maison, voir ce qui s'y passe. C'est une forme de repas de fête, on peut le penser. Mais ce qui est important surtout à voir, c'est que inviter à table en Orient, c'est inviter dans l'intimité. Donner accès à sa table, partager un repas, c'est plus que partager le couvert. C'est faire entrer quelqu'un dans son cercle. Dans les milieux aisés, on aura la place, donc on pourra mettre des banquettes, s'étendre dessus, parce qu'on mange souvent couché à cette époque-là, surtout chez les classes sociales aisées. On se retrouve entre amis, on mange avec les mains, ben oui, c'est la façon de manger. Et c'est une marque d'honneur que d'inviter et de répondre à l'invitation. Mais là, il va se passer quelque chose. Un clash, puisque commencent à se manifester à l'égard de Jésus les premières hostilités pharisiennes quant à sa façon de vivre. Et là, on en a un épisode. Je ne relis pas le passage, vous en souvenez. Et ça amène Jésus à répondre sous une tournure qui est devenue proverbiale. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et ça, ce n'est pas simplement ironique, en ce sens que les pharisiens, à qui s'adresse cette parole, se croient bien portants, se croient justes. Mais c'est aussi la révélation de l'œuvre du Messie, sans considération de situation sociale. À la seule condition, elle est importante, de se reconnaître malade et d'avoir recours au médecin envoyé de Dieu. C'est une proclamation qui est caractéristique dans l'Évangile, au moment même où Jésus introduit un péager, un receveur des douanes parmi ses disciples, et où il est tout de suite classé comme suspect dans l'esprit des chefs des communautés de l'époque. Alors, à la lumière de cet épisode, et en transposant dans notre actualité présente, d'église, de communauté, il vaut la peine de s'interroger sur la façon dont je me considère, dont nous nous considérons, bien portant ou malade. Je me considère bien portant lorsque certains schémas de pensée se font jour en moi. Exemple, ce sont les autres qui ont besoin d'une aide, pas moi. Ce sont les autres qui dysfonctionnent, qui ne voient pas bien les choses, qui ne les analysent pas bien. Ce sont les autres qui ont une approche un peu bizarre de la foi, de la vie d'église, de la communauté. Ce n'est pas la mienne. Et objectivement, la mienne est meilleure. Et dans ces cas-là, je suis un bien portant. Moi, je suis cohérent avec moi-même. C'est déjà pas mal. Je fais des choix. Je fais mes choix. Je ne vois pas pourquoi j'en ferai d'autres. Je n'aime pas les surprises, les situations non préparées, celles que je ne maîtrise pas par avance. Je suis un bien portant. Si quelque chose ne me plaît pas, je ne le dis pas forcément. Je ne le partage pas, mais j'en pense pas moins. Finalement, il n'y a que moi qui réfléchisse ici, qui soit consciente des choses. Parce que je suis un bien portant. À l'inverse, Je me considère comme malade lorsque je sais que quelque chose me manque. C'est d'ailleurs pour cela que je suis venu ce matin, car j'ai ressenti le besoin de venir. Rien ne m'y obligeait, mais j'en avais besoin. Je me considère comme malade car j'ai le sentiment que seul je n'y arrive pas. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, comme l'écrit Paul aux Romains. D'ailleurs, je ne sais pas très bien où j'en suis sur ce sujet. C'est parfois un peu flou. D'autres ont bien de la chance de s'y retrouver, pas moi. Et parfois, dans ma vie d'église, j'ose pas trop m'exprimer car je ne sais pas si je vais être compris. Il y a des gens qui en savent tellement plus que moi. Ils ont l'air sûrs d'eux. Eux, au moins, ils se portent bien. On n'est même pas du même monde. On ne joue pas dans la même catégorie. Jésus a été clair. Si vous vous sentez bien portant, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, je suis venu appeler ceux qui ont besoin de moi. Vous qui savez tout, à quoi puis-je vous servir ? Vous qui êtes venu ici chez Mathieu le Péager, plein de verdicts. Vous qui êtes venu au culte ce dimanche matin en vous disant que peut-être vous n'allez rien apprendre. Mais parce qu'il faut être là, parce que c'est l'habitude. Vous n'avez pas besoin de moi. Et Jésus, avec ses interlocuteurs, va plus loin. Vous pensez ne rien avoir à apprendre ? Eh bien si, justement, vous avez encore du boulot. C'est assez violent ce que dit Jésus. Allez donc apprendre, vous qui savez tout, ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, pas le sacrifice ». Autre traduction, « c'est l'amour qui me plaît, pas le sacrifice ». Et ce texte du prophète Osée, que vous connaissez par cœur, vous les pharisiens, vous êtes capables de le réciter comme plein d'autres textes, et finalement vous ne le comprenez pas. Les péagers et les pêcheurs, eux, ces textes, ils ne les connaissent peut-être pas forcément. Ou alors ils les ont oubliés. Mais vous qui les connaissez, qu'est-ce que vous en faites ? Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. C'est un texte qui est extrait de Knock, de Jules Romain, Louis Jouvet. Allez le revoir, c'est toujours suave. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Alors, dans la nouveauté qu'apporte Jésus, il y a de vraies interrogations pour certains qui se sentent perdus et bousculés. Et ceux-là ne trouvent plus leur repère. Ils n'y comprennent plus rien. Il y a des sincères, il y a des gens qui le sont assurément, mais ils ne demandent qu'à comprendre car ils sont objectivement dépassés. Et ceux-là ne viennent pas avec le même esprit que les pharisiens. Ils viennent parce que, objectivement, ils sont perdus. Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Mais pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Et personne ne pose une pièce d'étoffe sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. C'est le jeûne qui fait la question pour les disciples de Jean-Baptiste. Ils sont des fervents, sincères, des pratiques religieuses comme le jeûne. Eux, ce qu'ils visent, c'est un idéal élevé, c'est une forme d'ascèse, de pureté, un idéal très élevé. Parfois tellement élevé que certains disciples proches de Jean vont se couper du monde, forcément mauvais et impurs. Ce sont un peu des cathares avant l'heure. Et en effet, les disciples de Jean-Baptiste sont des scrupuleux. Ils suivent un prophète qui a un message d'avertissement, d'appel à la repentance. C'est du sérieux. Ils le prennent au sérieux. Et là, que constatent-ils ? Que chez les disciples de Jésus, il y aurait quand même un peu de relâchement. Ce que leur répond Jésus, c'est la fête. Pour le moment, c'est la fête. n'est pas le moment de jeûner. Il y aura un temps pour cela, et vous aurez des motifs de le faire. Mais pour l'instant, c'est la fête. Et c'est difficile à entendre pour les disciples de Jean-Baptiste, cette chose-là. Ils attendent beaucoup de Jésus, dont Jean-Baptiste leur a parlé, dont ils pressentent le rôle majeur. Mais là, ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne se sentent pas, comme on dit aujourd'hui, raccord. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Alors là aussi, si nous transposons, combien de situations peuvent nous déranger dans le comportement des autres, en total décalage avec ce qui doit se faire. Nous sommes convaincus, nous, de faire ce qui est juste. Nous y mettons tout notre être, tout notre cœur, sincère. Et vraiment, les initiatives ou les réactions d'autres croyants, de chrétiens comme nous, nous désarçonnent, peuvent peut-être même nous choquer. Nous ne sommes pas toujours synchro, comme on dirait aujourd'hui. Les disciples de Jean-Baptiste sont objectivement en décalage, parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et personnellement, moi, je les vois comme souffrant vraiment de cette situation. Dans notre Église, au sein même de notre communauté, nous pouvons être sensibles aussi à ce type de décalage, et nous pouvons comprendre, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, et heureusement que des décalages existent dans nos façons de voir et dans nos manières de faire. Mais vous avez remarqué, quand c'est dur à comprendre, quand nos discours deviennent trop abstraits, il n'y a pas meilleur que Jésus pour aller droit au but à travers des images. Le récit aurait pu s'arrêter là. Jésus aurait pu arrêter là l'échange. J'ouvre les guillemets, c'est la fête, essayez de comprendre, relisez les Écritures, creusez-vous un peu la tête, qui cherche trouve, et laissez-moi tranquille avec mes amis. Et si ça vous passe au-dessus, tant pis. Fermez les guillemets. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est le Jésus pédagogue. Chers disciples de Jean-Baptiste, vous êtes un peu perdus. Vous êtes perplexes. Alors on va faire un détour par deux images. Et c'est celle du vieux tissu qu'on pense récupérer en cousant dessus un morceau neuf. Alors moi, je ne suis pas couturière, mais je crois quand même que la tendance, quand un tissu est usé, que les fils se défont, que la trame se défait, si on met une pièce neuve dessus, on aurait quand même plutôt tendance à prendre après le vêtement ou le tissu par le bout réparé et continuer à tirer ainsi sur les fils qui sont déjà fragiles. Hypothèse. Il y a certainement des gens beaucoup plus experts que moi en couture aujourd'hui pour expliquer cela. Mais c'est aussi celle de l'économie qu'on pense pouvoir faire en utilisant de vieilles outres pour du vin nouveau. C'est incompatible. Comment concilier, finalement c'est ce que nous dit ce texte, comment concilier l'ancien et la nouveauté que Jésus apporte? C'est pas faisable. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. La vie nouvelle qu'il apporte au monde est incompatible avec les institutions légales de l'époque, et même elle exige l'anti-renouvellement de l'homme intérieur. C'est ce que disent ces images. Jésus ne veut pas mélanger son enseignement nouveau à l'enseignement des anciens. En mélangeant tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des tensions qui casseront, qui déchireront, qui abîmeront. Et finalement, tout mélanger, comme pour le vin, c'est risquer de tout perdre. Ils ont dû avoir du mal, les disciples de Jean-Baptiste, à entendre que leur vision ne pouvait pas simplement être prolongée à travers l'enseignement de Jésus, mais qu'il y avait désormais rupture avec les habitudes et les traditions pour entrevoir une nouvelle relation de Dieu avec les hommes. Et ils ne sont pas les seuls à avoir eu du mal. Plus tard, dans les premiers temps de l'Église, les chrétiens d'origine juive tenteront de rétablir la circoncision comme moyen du salut auprès des nouveaux convertis à Antioche. C'est difficile d'admettre la rupture avec ce que l'on a toujours scrupuleusement observé. C'est difficile de remettre en cause ce qui fait son identité. Alors transposons une dernière fois ce matin. Aujourd'hui, c'est aussi une question qui se pose à nous d'une certaine façon. Est-ce que nous accepterions facilement de voir renouveler certaines convictions profondes?
Est-ce que nous sommes aussi prêts que cela à nous faire bousculer, à laisser Dieu nous surprendre, à prendre le risque qu'il mette à jour nos routines, nos paresses, nos systèmes de pensée qui sont bien confortables et qui nous rassurent? En conclusion, quotidiennement, nous avons sans doute besoin de savoir de quelle façon nous sommes susceptibles de réagir. En tant que bien portant, sans demande, mais avec beaucoup de certitude, ou à l'écoute, et ce sont les mêmes personnes dont il s'agit, ce ne sont pas deux personnes différentes, c'est nous, au milieu de quoi, au travers de quoi ces choses-là passent. Ou à l'écoute, disponible, acceptant notre faiblesse et donc notre dépendance, et de nous entendre dire que nous avons besoin du grand médecin avec un grand M. Amen.